On va nous pencher sur le livre de l'Exode, et donc au temps de Moïse. Et on va rencontrer un ouvrier. Mais d'abord, avant de rencontrer cet ouvrier, je voulais revoir pourquoi le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte. Est-ce que vous vous souvenez de la raison? Pour cela, en dehors de la raison qu'ils sont en esclavage, mais est-ce que vous vous souvenez de la raison donnée par Dieu, d'abord, et puis par Moïse, quand il parle au Pharaon par la suite? Alors, pour quelle raison est-ce que Dieu voulait que Moïse conduise le peuple d'Israël hors d'Égypte? Bon, je vous donne la réponse.
Pour lui rendre un culte.
Parce qu'on n'est pas en interactif là aujourd'hui, je pense, mais je vous donne la réponse. C'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. À 5 reprises dans les chapitres 3 à 10 du livre d'Exode, lorsque Dieu met en marche cet Exode, cette fait de quitter le pays d'Égypte, il donne cette raison. C'est en Exode 3, 18, 5, 3, 8, 26 à 29 et en Exode 10, on trouve ça. Pourquoi quitter l'Égypte? Pour pouvoir adorer Dieu librement, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Il y a une chose remarquable que j'ai trouvée en lisant ces textes aussi, c'est que dans cette demande formulée par Dieu, et donné à Moïse, puis communiqué par Moïse au Pharaon, à 3 reprises dans ses textes, il est dit « Permets-nous donc d'aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, pour être délivré de l'esclavage en Égypte, pour pouvoir adorer Dieu librement, il faut 3 jours. 3 jours de marche dans le désert, 3 jours dans un tombeau, peut-être. » Alors, on va lire, je vais partager mon écran avec vous, et on va lire ce premier passage en Exode. Et Jorgan, si tu tapes le nom du message, bon, on va appeler ça Betsalel, œuvrer pour adorer Dieu. Et on va passer à notre première lecture de versets que Sandrine va lire pour nous.
L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu.
Pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Dieu souhaite que sa création, son peuple le loue et l'adore. Il sait que cette adoration est primordiale pour leur bien. C'est une priorité de vie. C'est une fonction première pour ceux qui lui appartiennent. On peut regarder le culte, l'adoration de Dieu, ce que nous faisons en tant qu'Église comme quelque chose, comme toute autre chose, comme une autre activité. Mais quand on regarde l'Écriture, on voit que Dieu a mis en œuvre depuis le début tout un plan pour qu'il rassemble un peuple pour lui adorer. Ce n'est pas juste une autre activité, c'est quelque chose qui est primordial, essentiel pour le bien-être de l'homme. Et quelque chose que Dieu nous demande de faire et pour lequel il a exercé tout un plan, toute une activité pour arriver à cette fin. Alors, maintenant, le peuple de Dieu se retrouve dans le désert, Sinaï. Donc, il quitte l'Égypte, on connaît l'histoire. Et ils sont plus dans ce pays qui s'appelait Goshen ou Gosen, là où il faisait bon vivre parce que les plantations poussaient très bien. comme en Bresse, d'ailleurs, dans mon pays maintenant. Et ce voyage dans le désert, c'était pénible. C'était pas très agréable toujours pour ce peuple. Ils n'étaient pas toujours sûrs d'avoir fait le bon choix en quittant l'Égypte. Mais Dieu sait ce dont ont besoin son peuple. Et il sait, il connaît leurs besoins à tout moment. Et il connaît les besoins pour son peuple pendant cette partie nomade de leur vie, de leur existence. Alors, Dieu a communiqué à Moïse qu'il doit construire une demeure pour lui. Une demeure pour Dieu, on peut se demander encore pourquoi Dieu veut que Moïse et le peuple d'Israël construisent cette demeure. Alors, pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de faire construire une demeure, ce qu'on a, nous, on connaît sous le nom aussi de tabernacle, pour construire cette tente portative? Ils étaient en voyage, ils étaient dans le désert, ils étaient toujours en train de bouger, pour construire cette tente portative, provisoire, et pour eux, c'était encore un autre truc à porter dans leur voyage. Pourquoi faire cela? Enfin, c'est pas comme aujourd'hui à Decathlon où on cherche une tente qui se plie en quatre fois et puis on met ça sur le dos et puis on y va. C'était autre chose. Pourquoi ça? Dieu a demandé à Moïse de faire construire le tabernacle pour habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est en Exode 25:8. Et pour procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constant avec le Dieu saint. Avant, enfin, ils étaient dirigés par la colonne de feu la nuit, le nuage le jour, mais là, Dieu voulait que son peuple sache qu'il était là, toujours présent au milieu d'eux. Donc, il y a cette demande de construire le tabernacle. Dieu a demandé cela pour qu'il puisse lui offrir des sacrifices, pour que son peuple puisse avoir un moyen en permanence de l'adorer et de le louer. Alors, nous retrouvons ces textes exacts en Exode 25 et en Exode 29.
Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez, à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je demeurerai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Donc voilà, Dieu a dit pourquoi il voulait cette tente soit construite, cette tente portative, cette demeure pour habiter au milieu de son peuple et pour que le peuple puisse lui offrir des sacrifices, pour qu'ils sachent qu'il était là avec eux en permanence. Alors, Moïse se met à l'ouvrage. Et c'est là où on va rencontrer le personnage donc, que j'ai choisi aujourd'hui, qui s'appelle Betsaleel. Et là, on va lire donc, le court passage qui part de ce personnage, mais ce personnage qui est plein de talent. Et on va lire les versets.
L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsaleel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts, afin qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné.
Donc, c'est vraiment, enfin, quand on regarde de près ce passage, c'est vraiment exceptionnel. Tout ce que Dieu fait dans cette affaire. Et la première chose, c'est qu'il parle à Moïse de cette construction de tabernacle. En fait, on va voir tout à l'heure que c'est même étonnant et précis ce que Dieu dit à Moïse. Et puis, il appelle un homme particulier. Et en fait, c'est lui qui donne le nom à Moïse de cet homme. Il appelle Betsaleel à ce travail particulier. Donc, c'est le chef de projet, si vous voulez, chef de chantier du projet de construction du tabernacle. Son nom, Betsaleel, veut dire à l'ombre de Dieu, c'est-à-dire sous la protection de Dieu. Il vient d'une famille notable, celle de Hetzron, et quelques commentateurs ont mis en contraste le choix de Betsaleel, qui vient d'une famille plutôt renommée, et de son compagnon d'ouvrage, qui est plutôt d'un tribu moindre. Donc on sait qu'il vient d'une bonne famille, Betsaleel. Alors, il était un artisan et artiste plein d'adresse. Il aurait été parmi les meilleurs ouvriers de France, cet homme. Il sait travailler l'or, l'argent, l'airain. Il sait sertir les pierres précieuses et sculpter le bois. Et tout ça, c'est pour qu'il puisse meubler et décorer le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire. Alors, je vais juste mettre une image d'un des objets que Dieu a demandé à Betsaleel à fabriquer. Alors là, c'est une image où on imaginait ce que ça pourrait être. Et il y a beaucoup de détails dans la Bible, donc on peut se rapprocher de ce que c'était cet objet. Et c'est juste un des objets réalisés par Betsaleel dans tous ces ouvrages qu'il devait faire. Donc là, il s'agit de l'Arche de l'Alliance, le coffre qui contenait les tablettes des Dix Commandements, par exemple, avec des autres objets précieux et sacrés du peuple d'Israël. Ce coffre était couvert d'or. Si vous lisez l'Exode 25 à 31, 32, décrit toute la manière que ces choses, le tabernacle et tous les objets à l'intérieur, devaient être fabriqués. Et donc, on sait que ce coffre, encore quelque chose à porter, était couvert d'or. Alors, si Dieu a choisi Betsaleel pour faire et lui a donné la sagesse et la dextérité pour le créer, cet objet et les autres objets, cette œuvre était certainement magnifique. Vous imaginez, hein? C'est Dieu qui imagine la chose et qui communique à un homme comment faire, et lui donne par la suite la dextérité, l'esprit pour faire cet objet. Comme Indiana Jones nous a dit, vous le savez, que cette arche a été perdue, mais on n'a pas retrouvé, comme dans le film. On dit que si jamais on retrouvait cet objet, ce serait le trouvaille de tous les temps au niveau de l'archéologie. Alors, nous pouvons explorer tous ces objets que Betsaleel a créés, et peut-être que je le ferai dans un autre message. mais on sait que c'était des ouvrages d'exception, vraiment quelques des ouvrages, des œuvres magnifiques. Alors, en lisant le texte aussi, on peut savoir que Bezalel était certainement un homme pieux et proche de Dieu. Le fait que Dieu annonce à Moïse qu'il a choisi son ouvrier, avant que Moïse le sache, indique la connaissance intime de cet homme, et ce passage montre que Bezalel est désigné. C'est Dieu qui le choisit pour cette tâche. Dans ce passage, il est dit que Dieu l'a rempli de son esprit. Mais ce même mot en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé en Genèse chapitre 1, le verset 1, tout au le premier verset de la Bible, où c'est dit que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est l'esprit créatif de Dieu. Et Dieu a rempli cet homme de cette même esprit. Et on sait aussi que dans ces textes, en parlant quand Dieu parle à Moïse et que Dieu infuse son esprit en cet homme, que les plans du tabernacle et ses objets viennent de l'esprit de Dieu. Mais ils viennent de l'esprit de Dieu à travers d'abord Moïse et puis Bezalel. En fait, en hébreu chapitre 8, il est dit, et je l'ai lu tout à l'heure, que les prêtres sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. Dieu a parlé à Moïse de ce tabernacle, et que ce tabernacle était juste une réflexion d'une image céleste, de l'image de la pensée de Dieu. Et puis il dit, aie soin, lui dit le Seigneur, de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Dieu a parlé à Moïse de ce tabernacle, de cette habitation, cette demeure que Dieu a conçue lui-même et puis a transmis aux hommes. C'est quand même quelque chose, on parle de la Bible étant l'inspiration de Dieu, que Dieu a parlé aux hommes quand ils ont transcrit sa parole. Mais c'est la même chose ici pour cette construction, ce tabernacle. Dieu a donné des instructions à un homme pour construire un sanctuaire calqué sur un modèle céleste, et cela en dit long sur les êtres créés selon l'image de Dieu. Eux aussi peuvent créer des œuvres. Dieu, comme Dieu a donné l'esprit, cet esprit créatif à Bezalel, nous aussi, on peut avoir une part de la créativité de Dieu en nous. Bien sûr que c'est limité à notre échelle de l'homme. Ici, la révélation de Dieu a pu être filtrée par la suite à travers un humain, Bezalel. Dieu a donné à l'homme une capacité innée de recevoir la communication de sa part. Et là, Dieu a donné sa pensée à Bezalel. Cet esprit donné à Bezalel révèle une partie de sa relation avec cet homme, n'est-ce pas? Bezalel a une relation avec Dieu. Ensuite, le passage part de ses compétences. Donc d'abord, Dieu lui donne à son esprit, et puis ensuite, il lui donne des compétences. C'est Dieu qui donne des compétences. Il est écrit que Dieu lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence. Et puis toutes ces choses, la partie esprit et la partie compétence, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Je trouve ça pour nous encourageant de savoir que nous, dans nos limitations d'humain, d'être humain, que Dieu peut nous équiper, Dieu peut nous donner, conférer de l'intelligence et des compétences. Et on va regarder ça dans un petit schéma. Donc, Bezalel était donc un homme équipé par Dieu pour cette œuvre spécifique, si importante pour le peuple de Dieu à l'époque et qui reste importante pour nous aujourd'hui pour connaître Dieu et sa pensée. Alors, je vais repartager mon écran. Et juste vous montrer un peu le détail du rôle de Dieu dans ce processus avec Bezalel et son rôle à lui. Donc, on voit dans ce passage que Dieu fait des choses et que Bezalel fait des choses. Mais il fait des choses grâce à Dieu et il fait des choses pour une raison. Donc, on voit que dans ce travail, que le rôle de Dieu est que Dieu remplit cette personne. Et c'est parler de son esprit, de son intelligence. Et par la suite, Dieu désigne, c'est Dieu qui nomme cette personne. Dieu a dit à Moïse qui allait être le chef de projet. Et puis, pour la prochaine chose que Dieu fait, c'est il donne de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence à cette personne. C'est ce que le texte nous dit. Et puis, bon, c'est vers la fin du texte, mais Dieu donne aussi, il pourvoit de l'aide parce qu'on sait qu'il avait un partenaire sur le chantier et puis il avait tous ses ouvriers. Alors, le rôle de l'ouvrier, donc l'ouvrier dans ce cas spécifique, c'est Bezalel. Et qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Et il est appelé à concevoir. Il est appelé à faire des plans. Donc, il doit concevoir tout le tabernacle même, comment ça va être, les objets qui seront à l'intérieur. Par la suite, il est appelé à exécuter. Il est axé à travailler. Donc, à affiner ce plan que Dieu lui a permis de concevoir. Et donc ça, on peut voir que dans l'exécution, dans le travail, c'est là où il affine tout le plan qui a été mis en place. Il travaille les matériaux. Et dans ce cas-là spécifique, il taille et il sculpte des choses. Donc c'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui est habile avec les matériaux. Et puis, à la fin de ce processus, l'ouvrier a réalisé quelque chose. Donc, il va au bout du projet, donc du concept jusqu'à l'exécution, le travail, jusqu'à la réalisation de ce travail. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse et Bezalel. Dans la construction du tabernacle. Derrière tout ça, c'est la raison pour tout ça. Pourquoi Dieu a demandé, pourquoi Dieu équipe pour cela? Afin que le peuple de Dieu exécute tout ce que Dieu a ordonné. Et je trouvais cette de regarder les rôles de Dieu et le rôle de l'ouvrier dans ce passage je trouvais intéressant pour nous aussi, pour la suite. Donc, quel encouragement peut-on trouver en cela? Je trouve que ça nous encourage par le fait que Dieu remplit d'intelligence et de sagesse quand on demande. Et parfois, il le fait de manière très spécifique, comme dans le cas de Bezalel. Dieu désigne aussi, Dieu nomme des ouvriers. On peut avoir confiance dans le dans les œuvres qui sont entreprises en sachant que Dieu place des personnes pour faire des travaux. Non seulement il place, mais il les équipe. Dieu donne des, comme dans ce cas spécifique, il donne l'intelligence, l'habilité, la compétence pour faire des choses. C'est un exemple du passé pour montrer ce que Dieu peut faire dans la vie de son peuple et des hommes et des femmes. Elle peut nous encourager, nous aussi, de notre part, à nous efforcer de progresser dans les compétences, dans le service. Et ça, il s'agit de toutes sortes de compétences pour mieux concevoir, pour mieux travailler et pour réaliser des projets. Et pour nous aussi, comme pour Moïse, Bézalel et le peuple de Dieu, pour quelle raison tout ça? Si nous, on veut progresser dans les compétences, c'est toujours pour exécuter pour ce que Dieu a ordonné. Et Dieu a ordonné des choses pour nous en tant qu'Église, en tant que collectif, et Dieu a ordonné des choses à nous aussi au niveau au niveau personnel, individuel. Alors, en sachant toutes ces choses, Dieu remplit, désigne, équipe pour son service. Je me demandais, je vous demande, quelle posture devons-nous prendre dans le travail, dans les travaux que Dieu nous a donnés? Quelle devrait être notre motivation? Alors, je vais mettre une autre image, et ce sont des rappels certainement, mais les versets suivants sont essentiels à vivre quand nous entreprenons un travail. Donc, quelle doit être notre motivation dans le travail? Que ce soit notre travail que Dieu nous a donné pour subvenir à nos besoins, ou le travail de l'Église, ou un autre travail.
Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu, ce sera là de votre part un culte raisonnable. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.
Donc, on connaît ces versets. On n'est pas quand on fait un effort, quand on fait un travail, quand on fait quelque chose, c'est pas pour plaire aux hommes. Notre première motivation doit être glorifier Dieu, rendre honneur à Dieu. Et donc, on fait des choses comme on le faisait si Dieu était dans la pièce avec nous. On le faisait pour lui. Pour lui rendre heureux de notre manière de faire, notre manière d'exécuter, notre manière de penser. On veut plaire à notre Père céleste dans notre manière de travailler. Et non seulement ça, mais c'est Paul a dit que c'est de votre part, c'est un culte raisonnable. C'est la réaction normale de quelqu'un qui sait que Dieu l'aime, Dieu s'est donné pour lui, Dieu lui a sauvé. C'est la réaction normale d'un enfant qui fait quelque chose pour son père qui est toujours bon. C'est votre culte raisonnable, offrir comme un sacrifice vivant. Ça devrait être notre motivation dans le travail. Bon, on peut dire tout cela, on peut connaître ces motivations, mais dans le travail et dans notre vie chrétienne, nous ne sentons pas toujours à la hauteur, n'est-ce pas? Parfois, on se sent même loin d'être à la hauteur. Dans notre travail pour Dieu. Donc l'homme, à juste titre, se sent inadéquat pour exécuter ce que Dieu a ordonné. Et on le voit ça en Moïse. Moïse, c'est un des exemples de cela. Même après avoir fait l'expérience de la rencontre avec Dieu au buisson ardent, il traîne les pieds lorsque Dieu lui demande de parler au Pharaon. Voilà ce qu'il dit. Donc, enfin, moi, j'ai pas eu d'expérience de buisson ardent. Vous avez eu cette expérience. Ça devait être quelque chose quand même. Moïse a été marqué certainement par cette chose. Mais même après ça, voilà ce qu'il dit quand Dieu lui demande de parler au Pharaon. Il dit de grâce, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Même après, c'est une des personnes qui a pu expérimenter cette présence de Dieu incroyable dans son rencontre. Et puis même après ça, il dit, bon, oh Dieu, mais je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne sais pas parler. En fait, c'est une manière de dire, ben, j'ai pas confiance, Seigneur. J'ai pas confiance. Mais nous aujourd'hui, donc on connaît ces histoires, ces exemples, et il y en a d'autres exemples. Nous pouvons adopter plutôt l'attitude de foi d'un garçon qui arrive avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ce garçon-là, il voulait avoir sa place dans le travail. Et lui, là, il débarque avec 5 pains et 2 poissons. Il dit à Jésus, bah, voilà, on va nourrir des gens. Et c'était largement insuffisant. Mais Dieu a fait quelque chose avec ce qu'il a donné, et surtout avec la foi. Il a amené envers Jésus. Nous pouvons toujours aujourd'hui avoir la foi que quand la mer devant nous est trop profonde pour la traverser à pied, avec Dieu, elle peut toujours s'ouvrir. Il faut qu'on reste dans la confiance envers Dieu, même si la tâche, la situation nous semble quelque chose d'inabordable. Dans notre vie d'église collective, nous pouvons nous accrocher à l'enseignement que Paul a donné à Timothée et à la promesse faite aux chrétiens que Dieu peut nous équiper. Il dit qu'il peut nous équiper pour toute bonne œuvre. Alors là, on va juste lire ce texte. Une petite partie de ce texte.
Reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne.
Voilà, donc là, il parle de Timothée et sa prédication et son travail dans l'Église. Il donne ses conseils de père, reste attaché à ce que tu as appris. Et en fait, là, ce passage parle aussi de l'efficacité de la parole de Dieu, si vous lisez tout le passage. Mais cet encouragement que je voulais donner, c'est que on peut avoir la confiance, même si nous sommes insuffisants, on se sent inadéquate pour le travail, on peut savoir que Dieu œuvre en nous, dans les hommes faibles. Et il dit ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé. Alors ça, c'est un mot, hein, parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. C'est une promesse que Dieu nous fait dans le travail. Donc là, c'est dans le travail de l'enseignement, prédication de la parole, mais on peut avoir cette confiance que Dieu équipe et qu'on peut se retrouver préparé, équipé pour les bonnes œuvres. Et vous rappelez que d'autres versets qui nous disent que c'est Dieu, comme Dieu lui-même a imaginé le tabernacle qu'il allait décrire à Moïse et puis par la suite décrire à Bezalel à construire. Dans le Nouveau Testament, il parlait de bonnes œuvres que Dieu prépare pour nous. Dieu imagine déjà des choses qu'il veut qu'on fasse. Il prépare des choses pour nous. Et s'il prépare des choses pour nous, il peut nous équiper. Et on peut avoir confiance dans ces promesses-là. C'est à nous de rester attachés, de garder conviction. Et puis par la suite, on va voir un autre aspect de cela pour nous. Donc, comme dans l'exemple de Bezalel, où Dieu a eu son rôle de choisir et d'équiper l'homme, nous avons toujours notre part de responsabilité aussi pour concevoir, travailler, réaliser. Mais cela implique quelque chose de notre part. Donc, on peut avoir confiance que Dieu va équiper, va préparer, mais pour nous, ça implique un engagement de notre part. Ça implique un effort de notre part. Et là, on lit, je vais pas afficher le verset, mais ce verset se trouve de Timothée encore. C'est Paul qui parle encore à Timothée, son élève, celui qui prépare pour reprendre le ministère, et il dit le suivant. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. » Alors Dieu a son rôle équipé, Il prépare des bonnes œuvres, mais nous, on a notre part de responsabilité dans le travail que Dieu nous donne à faire également, c'est de nous efforcer. On fait un effort, on s'engage pour être des ouvriers qui n'ont pas à rougir dans l'exécution du travail que Dieu nous donne. Ça, c'est plutôt un avertissement. Où c'est un encouragement fort de prendre au sérieux le travail que Dieu nous donne. Alors pour conclure cette réflexion, je demande, comme Joël a fait tout à l'heure, je demande aussi des prières pour notre Église. Et quand je demande, c'est de prier, je note aussi que prier, c'est œuvrer. Dieu nous donne la capacité de lui parler à travers la prière, et c'est aussi une œuvre qu'a accompli. C'est quelque chose que nous donnons. C'est le don de soi. C'est d'approcher Dieu pour son Église, pour les autres, pour son œuvre. Prier, c'est œuvrer. Rappelons-nous que notre Église n'est pas un bâtiment. Quand on a commencé à se voir dans ces locaux que Dieu nous a donnés, c'est juste un bâtiment. Notre Église n'est pas un bâtiment, bien que Dieu nous ait permis d'avoir ces deux maisons sur lesquelles nous travaillons actuellement. Mais pour quelle raison encore est-ce qu'on travaille sur ces maisons? Pourquoi on travaille sur ces bâtiments? Pour quelle raison sommes-nous présents même ce matin par Zoom? Pourquoi on est là? On est là plus comme pour Moïse et son peuple, pour lui rendre un culte, pour lui offrir des sacrifices d'adoration, pour l'adorer ensemble. C'est pas une activité banale, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est l'intention de Dieu pour nous. Et donc, rappelons-nous, comme je l'ai fait aussi tout à l'heure, rappelons-nous que Dieu pourvoit pour notre assemblée depuis plus de 40 ans. Mais là, nous sommes aussi à une sorte de tournant. on a un nouveau local, on va investir un nouveau quartier, une nouvelle type de d'expérience de vie d'église va débuter à cause de ce changement de lieu. Et donc les prières que je vais afficher des prières que vous pouvez faire et qui que je rappelle encore, c'est de vrai aussi, c'est une œuvre à accomplir, c'est un effort à faire. Mais prions que Dieu continue de nous remplir, de remplir de sa sagesse dans nos plans et dans nos choix de ministère. Il peut le faire si on cherche sa face, si on est ensemble dans cette prière, et je vois que nous sommes ensemble dans cette prière. Dieu peut nous remplir de sa sagesse. Prions que Dieu nous confère les compétences nécessaires pour œuvrer ensemble dans ce ministère. Et quand je regarde notre Église aujourd'hui, quand je regarde même notre Église dans le passé, notre Église aujourd'hui est remplie de personnes talentueuses, remplie de dons différents. Dieu a conféré déjà à notre Église tout un tas de compétences dans le ministère, et on peut s'en réjouir, mais prions que Dieu continue à donner, à nous équiper, et puis prier que Dieu désigne encore, et là, pour chaque personne dans l'Église, quand on parle de ces pierres vivantes, cet édifice, cette métaphore que Dieu utilise pour son construction de son Église, il donne des dons, chacun a des dons, et que Dieu désigne les rôles que les personnes qui se trouvent dans notre Église puissent s'épanouir dans leur part de l'œuvre, chacun. On n'est pas des spectateurs dans le travail de l'Église, nous sommes des participants. Chacun a un rôle, et prions que Dieu permet que chaque personne puisse s'épanouir dans nos parts de l'œuvre. Prions que Dieu continue à accorder son esprit, et que notre travail collectif puisse porter du fruit par la suite. Donc prions qu'il continue de nous permettre de faire cela selon ce qu'il a ordonné, prions qu'il continue de nous permettre de bien concevoir les plans et choix de ministère, de bien l'exécuter en les travaillant, en nous efforçant de nous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve, prions que ainsi, et grâce à Dieu seulement, qu'on réalise le ministère que Dieu nous a donné. Et faites-lui confiance en cela, en se sent inadéquat, mais Dieu prépare à l'avance des choses pour nous, il nous équipe dans l'œuvre qu'il veut qu'on fasse. Perdons pas de vue dans tout cela, que nous faisons ça pour lui offrir des sacrifices, pour l'adorer, pour le louer et pour lui rendre gloire. C'était l'intention de Dieu quand il a demandé à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte. C'est toujours son intention d'avoir un peuple qui l'adore en esprit, en vérité. Voilà mes encouragements pour vous aujourd'hui qui sont venus de l'exemple de la vie de Betsalaël. Merci.